rencontre spirituelle en ce 17 janvier. On sait que c'est la fête de quelqu'un qui a vécu bien longtemps, c'est Saint-Antoine, qu'on appelle Saint-Antoine Abbé. C'est le père des moines d'Occident. Il est mort en l'an 356, mais une fois de plus, je remonte dans le temps. L'an dernier, je vous avais parlé de Sainte-Élisabeth et de différents saints comme ça, mais je compte parler aujourd'hui de Claudine Moine, une femme absolument extraordinaire. J'avais parlé d'ailleurs de Saint-Antoine Abbé assez longuement l'an dernier, mais Claudine Moine, c'est une couturière, une simple femme, qui a vécu au XVIIe siècle et qui a eu une expérience authentique, mystique, remarquable. Pourquoi veux-je parler de ça? C'est qu'on nous parle toujours des mystiques bouddhistes, des mystiques tibétains, les mystiques shintoïstes, les mystiques hindous, comme s'il n'y en avait pas chez nous. Alors, vous allez voir qu'une simple couturière a pu atteindre de très hauts niveaux de vie mystique chrétienne, catholique, grâce en particulier à l'Eucharistie, que l'on oublie trop quand on parle de mystique. Ça peut sembler un peu curieux comme sujet, mais vous allez voir, je vais essayer de simplifier les choses pour qu'on comprenne ce que c'est que cette démarche mystique d'une femme remarquable qui a été comme Marie de l'Incarnation à Québec, Thérèse à Avila, Thérèse à Lisieux, Jean de la Croix en Espagne, et tant d'autres, y compris au XXe siècle. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On a le texte de l'autobiographie de Claudine Moine qui a été publié chez Desclés en 1967 sous le titre de « Ma vie secrète ». C'est le père Castillon qui, à l'époque, au XVIIe siècle, était un disciple du fameux père Louis Lallemand dont je vous parlerai un jour. Et il passait pour l'un des tout premiers prédicateurs de son temps. Et Claudine Moine s'était adressée à lui en octobre 1648. Et à la suite de confidences, apparemment, le père Castillon a cru devoir lui demander justement de relater par écrit les principales faveurs qu'elle avait reçues de Dieu depuis sa naissance. Et elle l'a commencé aussitôt, et c'est dans ces circonstances qu'ont été composées des relations, comme on appelle ça, des relations, qui sont parues, je vous le rappelle, sous le titre de « Ma vie secrète chez Desclés ». J'ai lu ça à l'époque, en 1968, 69, 70, et j'ai été émerveillé. Claudine Moine a été baptisée un 17 janvier 1618. C'est l'anniversaire aujourd'hui de son baptême. Elle est née de parents de bonne famille, puis elle disposait d'une certaine fortune, puis elle perd malheureusement sa mère à 7 ans. Elle est née en Franche-Comté, une région de la France. Et sa sœur Nicole avait un an de moins qu'elle, 6 ans, puis son frère, environ 4 ans. Alors leur père, M. Moine, évidemment, a eu soin de faire donner aux enfants l'éducation nécessaire selon le monde, comme elle dit dans son texte. C'était des gens un peu à l'aise. Par contre, la formation à ce qu'on appelle dans ce temps-là la vertu, disons une bonne éducation chrétienne aujourd'hui, a été assez négligée. Et ainsi, Claudine passait tout le temps qu'elle pouvait trouver, dit-elle, à jouer aux cartes. Plus tard, elle parle de l'énormité de ses crimes, s'accusant d'avoir laissé dans son enfance, c'est un peu grave d'ailleurs, libre cours à la méchanceté, au mensonge, à la vanité, au mépris des autres, comme bien des enfants turbulents, hein, qu'il ne faut pas juger trop vite d'ailleurs. Elle dit qu'elle injuriait les domestiques. Elle allait jusqu'à les battre parfois. Elle cédait facilement à la colère comme à la paresse. Ça ressemble à certains enfants qu'on voit des fois dans le métro qui sont pleins de colère. Pauvres parents qui sont pris avec des enfants comme ça. Et souvent le dimanche, quand sonnait la dernière messe, toute la famille était encore couchée, puis ça ne créait aucun problème. Alors l'aînée des enfants, notre Claudine, Moine, et les deux autres ont fait leur première communion quand ils en ont eu l'âge, mais sans préparation pour ainsi dire. Ça ressemble tellement à ce qui se passe aujourd'hui. Notre jeune Claudine avait une cousine religieuse chez les Ursulines de Langres. Et pendant plusieurs années, elle demande avec insistance à son père à être mise en pension là-bas, et finalement, son père accepte. La vie au couvent est pour Claudine tout à coup un petit paradis. Pour la première fois, elle côtoie à longueur de journée des compagnes de son âge d'abord. Ils appartiennent comme elle à de bonnes familles, bien élevées. Puis la maîtresse des pensionnaires lui manifeste beaucoup d'affection. Et là, notre jeune adolescente découvre un ordre raisonnablement réglé dans un climat chrétien. Puis elle s'épanouit, puis elle se sent heureuse. Et chose assez remarquable, à peine connaît-elle ce que c'est que le bien, bien elle éprouve son attirance, elle s'y attache, et c'est avec grand plaisir qu'elle s'adonne à l'oraison. Sa maîtresse lui enseigne comment faire d'ailleurs, puis elle est docile à la grâce. Et Claudine pratique même quelques petits exercices de mortification qui sont appropriés à son âge, là, dans la mesure où la révérende mère quoi le lui permet. Et là, bientôt, Claudine désire être religieuse, elle aussi, mais son père lui refuse la permission. Elle éprouve une telle contrariété qu'elle en tombe malade pendant 3 mois. Elle prend les devants en prononçant secrètement le vœu de chasteté à 14 ans. Ça ne vaut pas grand-chose, évidemment, un vœu de chasteté comme ça qui est prononcé de son propre chef par une adolescente. Ça n'engage pas son avenir, on sait ça, n'est-ce pas? Mais elle le fait quand même, son vœu. Bon. Un an et demi encore, puis elle persévère dans sa résolution, et là, M. Moine vient reprendre sa fille. Et comme elle manifeste une grande peine en quittant la communauté des Ursulines, où elle étudie, parce que ce sont des sœurs enseignantes, hein, les Ursulines, ben alors il lui assure qu'il ne s'oppose pas à sa vocation, et il veut simplement l'éprouver, dit-il. Là, de retour chez elle, ben Claudine continue d'abord à mener une vie fervente et retirée. Mais lorsqu'elle comprend que le projet de son père, c'est de la marier, là, elle se relâche, puis elle tombe dans la tiédeur. Elle écrit « Mes mauvaises inclinations m'ont emporté bientôt où elles ont voulu. » Et elle réclame donc des robes neuves, le jeu, la lecture des romans, des comédies, puis, comme elle dit, les compagnies, c'est-à-dire être avec des amis, des gens. Tout ça, ça la passionne. Et puis, ça prend la place qu'elle réservait auparavant à Dieu. Elle en arrive même à ne plus supporter la pensée d'entrer chez les religieuses. Et bien plus, comme au jour de son enfance, elle manque souvent la messe, même les dimanches et les fêtes d'obligation. Et ce genre d'existence va durer assez longtemps, durant 7 ans. Et en 1635, à 17 ans, la France entre en guerre, n'est-ce pas, à son tour dans la guerre de 30 ans. La fameuse guerre de 30 ans qui a commencé en 1618. Et puis, M. Moine et les siens là, se trouvent aux prises avec de grandes difficultés. Et Claudine est envoyée par son père à Besançon pour y traiter de quelques affaires. La situation matérielle de la famille se dégrade de plus en plus. Et Claudine et sa sœur, qui, je vous le rappelle, seulement 1 an de plus jeune, Nicole, éprouvent le désir de se mettre en service, comme on dit, jusqu'au retour de la paix. Et comme elles en cherchent le moyen, bien l'occasion se présente d'écrire aux Ursulines de Langres. Là, la lettre parvient à destination, puis l'ancienne maîtresse des pensionnaires, qui est devenue supérieure, répond en offrant aux jeunes filles l'hospitalité du couvent, où se trouve peut-être encore leur cousine religieuse, évidemment. Là, elles se mettent en route le 12 février 1642. 12 février 1642, juste quelques mois avant la fondation de Montréal. Hein. Ça n'a aucun rapport, évidemment. Elles arrivent le lendemain et sont reçues avec de grandes démonstrations d'amitié. Là, les Ursulines envisagent de les garder chez les sœurs Tourières, celles qui s'occupent des rapports avec l'extérieur, car les Ursulines sont des sœurs cloîtrées, mais qui enseignent. Hein. Comme elles faisaient à Québec, c'était comme ça à Québec, les Ursulines, elles étaient cloîtrées autrefois. Et puis, les garder aussi longtemps que les événements vont l'exiger, mais par discrétion. Elle n'ose pas accepter cette proposition généreuse des sœurs. Et par suite de la guerre de 30 ans, il leur est impossible de trouver du travail à Langres, en sorte qu'elles doivent, bon gré mal gré, envisager de se rendre à Paris pour se trouver un emploi. Et après un voyage mouvementé de 6 jours, nos deux jeunes comtoises, comme on dit, puisqu'elles sont nées en Franche-Comté, elles arrivent à Paris le 23 avril 1642, 1 mois avant la fondation de Montréal. Aucun rapport encore. Et puis, elle trouve dans le quartier du Marais, oh, le beau quartier du Marais à Paris, une chambre où vivent déjà plusieurs personnes, selon l'habitude du temps. Étrange, hein? Puis elle se met à chercher du travail, mais c'est inutile, elle n'y arrive pas, on exige déjà des qualifications qu'elle n'ont, ni l'une ni l'autre. C'est comme aujourd'hui, on exige des qualifications que les jeunes n'ont pas, plutôt que de leur faire apprendre en quelques jours. Alors, comme elles ne peuvent pas se placer, bien, elle vit de travaux d'aiguille. Pour ça, c'est une couturière, Claudine Moine, finalement. Et c'est très mal payé, ça ne suffit pas à leur subsistance. Alors, Claudine, plus en peine pour sa sœur que pour elle-même, elle va se présenter au procureur des Jésuites, qui s'appelle le père Jarry, comme la rue Jarry, afin de lui exposer sa détresse. Et après 2 ans, une situation se présente pour la jeune Nicole, qui l'accepte, sans enthousiasme d'ailleurs, et Claudine demeure dans la chambre qu'elle partage avec 2 ou 3 autres jeunes filles, puis elle tire l'aiguille à longueur de journée, quoi. Mais elle n'arrive toujours pas à gagner de quoi vivre, et malgré sa pauvreté, bien, elle loue une petite chambre vers 1645, non pas pour elle, mais pour y accueillir sa sœur, qui est en butte à des difficultés, puis qui est désireuse de quitter son emploi pour des raisons qu'elle-même approuve, probablement du harcèlement sexuel, comme on dit aujourd'hui. Elles ont, à ce moment-là, 27 et 26 ans. Et alors, le conflit s'apaise, finalement, et Nicole demeure en place, et Claudine se trouve seule, avec la pauvreté pour compagne, comme elle dit, à la manière de Saint-François d'Assise. Et elle a gardé la conviction que les faveurs divines ont exercé une heureuse influence sur sa santé et qu'elle n'aurait pas survécu si Dieu n'avait lui-même, on peut dire, supplié à la nourriture qui lui faisait défaut. Du moins, elle bénéficie d'une totale liberté pour ses exercices spirituels. Et puis, elle a été recommandée finalement à une famille aristocratique du Marais qui exprime le désir de la voir. Et dès lors, de lui faire porter ses repas, puis elle accepte d'abord, puis elle s'en repent. Elle veut vivre dans la pauvreté, mais finalement, elle accepte d'aller vivre chez eux sous la pression de son directeur, le père Castillon, qui lui dit que voilà la volonté de Dieu et elle doit obéir. Alors, elle va donc habiter dans un bel hôtel du Marais. Et alors, Claudine Moine s'installe donc à demeure là, dans cet hôtel particulier. Vous savez, les hôtels particuliers à Paris, c'est magnifique, c'est immense. Il y a des serviteurs et puis ces gens-là mènent la grande vie. Et cet hôtel particulier, elle le connaît bien pour en avoir assuré la garde 2 étés de suite. Et les propriétaires, qui sont des grands et des riches du monde, ont derrière l'hôtel un jardin qu'entretient un jardinier. Ces gens-là se déplacent en carrosse. Ils possèdent à la campagne une propriété où ils résident durant la belle saison. Puis ils disposent d'un personnel nombreux, ces gens-là ont souvent jusqu'à 20 de serviteurs. Hein. Et bref, c'est une maison très considérable, écrit-elle dans son texte, Claudine Moine. Elle passe son temps à coudre, à filer et à raccommoder, la plupart du temps, des vêtements usagés. À l'occasion, elle devient dame de compagnie. Et elle écrit, « Il m'est arrivé souvent que madame, me menant en visite avec elle, dès que je montais en carrosse, je me sentais tiré en oraison. » On voit là naître chez elle l'esprit de contemplation. Sa journée est très remplie d'ailleurs. Elle est levée d'ordinaire à 6 heures. Après ses prières vocales, elle se livre à l'oraison durant 1 heure. Ensuite, elle assiste à 2 messes, ce qui était assez normal. Dans mon jeune temps, on faisait ça souvent. 2 messes. Et la première messe, c'est pour arriver à la communion, puis la deuxième messe, c'était comme une forme d'action de grâce, où on assistait sur les prières d'action de grâce. Hein. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de sermon à l'époque, hein, sur semaine. Et puis, elle place aussi une lecture en début de matinée, une lecture spirituelle. Elle prend ses repas avec le personnel de la maison. Elle évite de se singulariser. Et puis, elle se félicite de n'avoir jamais eu de dispute ou de différend avec qui que ce soit. Le soir, elle arrête son travail 1 heure avant le souper, puis elle récite son chapelet. Elle prie, elle lit. La journée se termine par la prière du soir. Elle y participe, d'ailleurs. Et puis, elle la continue en particulier pendant 1/2 heure, à peu près, avant de se coucher. Car on priait ensemble dans ces grandes maisons catholiques. Et le dimanche, bien, elle remplace tout son temps de travail par des exercices de piété. Elle veille à ne jamais manquer ni les vêpres, ni le sermon. Les vêpres, je le rappelle pour les plus jeunes, ce sont des prières officielles de l'Église que l'on récitait dans les églises vers 4 heures l'après-midi, le dimanche. On chantait ça d'ailleurs. Ça existait dans mon jeune temps, c'était beau. Et telle est l'existence donc pieuse, mais simple, Tout ordinaire que menait Claudine Moine dans un hôtel du Marais depuis 1648 jusqu'au moment où, ayant terminé ses écrits, en 1655, à 37 ans, nous la perdons définitivement de vue, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. À part son confesseur, nul ne se doute qu'elle vivait alors une des expériences mystiques les plus intéressantes que connaisse l'histoire de l'Église. Elle l'a décrite avec beaucoup de talent. Mais pour en avoir une idée plus complète, il est nécessaire de revenir quelque peu en arrière. On sait le souvenir, à Dieu, que Claudine a gardé ses années de pensionnat, petit paradis, où elle éprouve l'attrait du bien, où elle a appris à faire raison, à désirer vivement devenir religieuse. Après sa sortie du couvent, on se souvient, elle est tombée dans la vie mondaine. Puis, elle est finalement de retour à un véritable christianisme. Puis, il y a une nuit intérieure, qui a suivi son départ. Elle a eu l'esprit élevé à Dieu, dit-elle. Et le lendemain, lorsqu'elle est revenue à elle après un accident de cheval, le Seigneur l'a rempli de lumière. C'est très beau ce qu'elle raconte à ce sujet. Puis l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, dont elle a fait la lecture, l'amène à régler sa vie. Elle tombe malade finalement pour 15 mois, et à partir de ce moment, elle reçoit souvent des grâces de raison. Mais c'est 6 mois environ après son arrivée à Paris que se produit l'événement décisif de sa vie, c'est le regard de Dieu. En effet, un jour, elle a 24 ans, qui se situe vraisemblablement vers la Toussaint de 1642, Claudine Moine perçoit en elle une présence et une force dont l'expérience lui paraît nouvelle. Et pour décrire la soudaineté de ce qui s'est passé alors, elle emploie des expressions comme « tout à coup ». En un instant. Toujours, elle a gardé l'impression que sa vie a comporté deux phases très distinctes, l'une avant cet événement-là et l'autre après, le regard de Dieu, quoi. Elle énumère à loisir, d'ailleurs, les effets de cet événement subi. Elle dit, « L'on me mit dans un pays nouveau où je vis tant et de si grandes choses que mon esprit était tout ravi et transporté. » Alors, une abondante lumière infuse, c'est à l'intérieur, infuse, c'est l'Esprit Saint, ça. Une abondante lumière infuse lui fait connaître l'énormité de ses péchés. Surtout quand elle songe aux grâces qu'elle a reçues. Et saisie d'un très vif sentiment d'amour, mêlée de confusion un peu, elle est jeune encore, elle ressent pendant 15 jours la peine des damnés, particulièrement leur séparation d'avec Dieu, et désormais, elle ne se départira plus d'une profonde humilité. Elle mettra toute sa confiance dans le Seigneur, miséricordieux et bon. Je répète, elle mettra toute sa confiance dans le Seigneur, miséricordieux et bon. Et l'attrait envers l'Eucharistie, dont elle était déjà favorisée, grandit incroyablement en elle. Et là, le père Jarry lui permet de communier 2 fois par semaine, ce qui est énorme à l'époque, puis 3 fois, puis même 4 fois. Elle va finir par communier, pour ainsi dire, tous les jours. Elle reçoit le don aussi de discerner en elle les élans instinctifs, disons les mouvements de la nature, jusque dans leurs moindres détours. Et là, elle peut faire attention avec beaucoup plus de finesse. Une grande estime pour la pauvreté aussi, qu'elle n'avait pas encore acceptée, vraiment, s'installe en elle. Et dorénavant, elle va aimer la pauvreté. Elle la choisit librement. Pour elle, c'est une libéralité de Dieu à son égard, et la pauvreté devient sa sœur. Et en même temps, elle éprouve de grandes facilités pour accomplir le bien. Et du jour au lendemain, elle porte un arrêt de mort contre ses mauvaises inclinations. Elle constate que lorsqu'il plaît à Dieu d'agir selon sa puissance extraordinaire, ses grâces sont infaillibles dans leur effet. Sans toutefois porter la moindre atteinte à sa liberté, la liberté humaine, c'est l'abandon à l'amour de Dieu, quoi. Et un instinct supérieur, là, presse Claudine Moine d'accomplir toutes ses actions par obéissance à Dieu dans l'amour. Et elle rédige en conséquence un règlement de vie qu'elle a soumis à l'approbation de son directeur. Puis elle peut alors dire à Dieu, et c'est très beau ce qu'elle lui dit. Vous avez mis ma volonté dans la vôtre, ô mon Dieu, pour ne plus jamais vouloir que l'accomplissement de votre bon plaisir en toute chose. C'est l'allusion à la déclaration de Jésus dans Saint Jean, chapitre 8, verset 29, hein, c'est évident, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est Jésus qui dit ça. Alors, comme il prie sans cesse, il éprouve le besoin de s'abandonner une demi-heure par jour à l'exercice de l'oraison, proprement dite. Et après quelques hésitations, parce que c'est pas facile de pratiquer l'oraison tous les jours, le Père Jarry, donc, le lui permet. Et durant les 6 mois qui ont suivi ce jour où elle a été touchée par Dieu, bien Claudine ressent de grandes difficultés à se comporter comme auparavant. Et puis sa sœur même arrive à lui faire remarquer, a dit, « Je sais pas ce que vous avez, mais vous devenez toute bête. » Mais selon Claudine, il aurait été plus exact de dire qu'elle quittait la condition des bêtes pour entrer dans celle des anges, particulièrement les jours où elle avait communié, et attirée vers l'Eucharistie par un désir de plus en plus véhément. Là, elle se trouve, à chacune de ses communions, comme noyée dans un abîme de faveur divine, dont l'effet se fait sentir presque continuellement. Tout ce qui s'offre à son regard élève son esprit jusqu'à Dieu, et les connaissances nouvelles dont elle est favorisée la ravissent et la transportent. Elle a donné elle-même une explication des raisons de tout cela, qui était de l'attacher à la vie en Dieu sans retour possible. L'attacher en vie, à la vie en Dieu sans retour possible. Et lorsque ce but a été atteint, alors commence une suite de purifications douloureuses. Claudine Moine s'aperçoit, à 25 ans, d'une manière confuse, qu'un changement s'opère en elle. Mais il lui faut quelque temps pour réaliser ce qui se passe. Et un vendredi saint, apparemment celui de 1643, elle se trouve en butte à de graves tentations contre la foi. Contre la foi, bien oui, qui se prolonge. En sorte qu'elle n'ose pas communier le jour de Pâques, mais dès le lendemain, elle en parle au Père Jarry, qui est un homme intelligent et qui l'aide à voir clair en elle-même. Il lui explique qu'elle doit non pas se laisser guider par des impressions du moment, là. Non, non, elle doit se présenter à la Sainte Table, c'est-à-dire à la communion, aux différents jours qui lui sont prescrits. Et plus les semaines s'écoulent, plus les tourments augmentent et aux difficultés contre la foi viennent s'ajouter des pensées blasphématoires même. Et bientôt, le scrupule. Et toutes ces angoisses pourraient l'amener au désespoir si elle ne s'attachait à un continuel exercice des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Elle assure avoir reçu de merveilleux secours à faire le signe de la croix, à prononcer le nom de Jésus avec amour. Jésus, Jésus, Jésus. Et les 7 ou 8 premiers mois de cette période sont un temps d'extrême souffrance, mais petit à petit, Dieu va la soulager. Et les peines les plus vives, quand même, coexistent chez elle avec une joie profonde. Et on verra comment cette joie profonde va l'amener à des lumières merveilleuses, splendides, qui sont les lumières des mystiques chrétiens. Elle a donc des peines assez vives qui coexistent en elle, j'ai dit, avec une joie profonde. Et à la suite de Sainte Catherine de Gênes, n'est-ce pas, elle a comparé son état, disons, à celui des âmes du purgatoire qui sont purifiées petit à petit pour avoir un amour pur de Dieu. Et en réalité, la purification qui s'opère en elle constitue, elle s'en rend compte, une grande faveur. Mais Claudine Moine n'en perçoit parfois que l'aspect surtout crucifiant. Elle éprouve une horreur immense d'elle-même à constater ses imperfections face à la sainteté de Dieu qui lui est manifestée. Et c'est le drame souvent des grands spirituels à un moment donné, c'est d'éprouver tout à coup leur petitesse, leur horreur, leur égoïsme, leur paresse, leur insignifiance, devant cet amour immense qui est celui de Dieu qui leur est révélé de plus en plus, surtout à la lecture de Saint Jean, à la réception de l'Eucharistie, à la pratique du sacrement de réconciliation. Et au cours de ces difficultés, bien, il vient à Claudine Moine, à l'esprit, que ces tentations ressemblent à celles des saints, puis elle s'en défend. Elle déclare ça à son confesseur, elle craint la vanité. Ses tourments intérieurs font rage parfois, d'autres malheurs s'abattent sur elle. Sa sœur trouve un emploi et la quitte. Elle est l'objet de calomnies. Elle reçoit de mauvaises nouvelles de son pays natal, la Franche-Comté, où il y a la guerre. À tout cela s'ajoute une pauvreté matérielle qui l'amène à la misère. Et l'épreuve dure 2 ans. Son ami, le père Jarry, est mort, son confesseur. Claudine Moine se met sous la direction alors d'un père qui a un curieux nom, le père de ses maisons. Et alors commence la période des Lumières, pendant laquelle elle dispose de la petite pièce où elle se trouve, enfin seule avec Dieu. Seule avec Dieu, oui, Dieu seul. Ça rejoint la plus grande spiritualité des plus grands saints, comme saint François d'Assise. C'est à partir de cette conception intérieure profonde que seul Dieu compte, que le cœur s'ouvre à tout l'univers. Dans sa dimension la plus totale aux besoins, avec Théodore de Chardin et particulièrement avec saint Paul, dans les épîtres de saint Paul est contenue cette belle réflexion profonde. Et dans cette chambre, elle est comblée de connaissances infuses. Une grande clarté lui donne lucidité pour discerner le mal qui est en elle, du fait des années qu'elle a vécu loin de Dieu. Et en même temps, l'Esprit Saint lui fait prendre une résolution généreuse et forte d'y résister. Elle mène le combat spirituel avec la dernière énergie, et seule et sans témoin, puisqu'elle n'est désormais limitée dans sa pénitence que par la soumission à son confesseur, elle s'applique à une continuelle mortification de son corps et de son esprit. C'est assez étrange. Elle ose contrarier passablement sa nature, comme on dit. Elle refuse de lui céder sur aucun point. Elle veut laisser toute la place à Dieu qu'elle aime. Et sa pauvreté lui impose un genre de vie très dure. Non seulement elle l'accepte avec joie, mais encore, elle y ajoute tout ce que son amour peut lui faire inventer. Elle rompt son jeûne quotidien, jusqu'au début de l'après-midi, par de petites quantités de nourriture insipide. Elle ne boit que de l'eau, et jamais à sa soif. Elle ne se défend pas du froid, vraiment. Elle porte un cilice. Elle attend 5 ou 6 jours pour ouvrir les rares lettres qu'elle reçoit, ce qui ne doit être pas facile. Elle mortifie en tout sa curiosité, quoi. Elle ne sort que pour aller à l'église. Elle qui, auparavant, se plaisait en compagnie des gens. On peut croire qu'elle est tombée malade. Non, dans le cheminement spirituel, il y a souvent cette démarche. Sous la conduite d'un directeur spirituel, il faut bien le dire, et les premières grandes lumières reçues par Claudine Moine concernent l'Eucharistie. Elles ont suivi les controverses déclenchées par l'ouvrage de M. Arnaud, intitulé « La fréquente communion », qui était un janséniste. S'il est vu, effraie Claudine, qui se demande ce qui lui arrive et si ce nouveau mode de connaissance n'est pas une illusion. Elle écrit « C'était par une lumière répandue dans l'âme, qui en un instant met à découvert quelques vérités. Je ne puis mieux la comparer et le faire entendre qu'en disant que c'est comme quand, à l'improviste et sans y penser, on voit une personne devant ses yeux. Et cette façon de voir intérieurement m'a été depuis très familière et ordinaire. Mais dans le commencement, elle me fit peur. Alors, comment expliquer cela? C'est que généralement, l'intelligence humaine, on le sait, hein, on élabore quoi, des idées à partir des données sensibles, hein, ce qu'on touche, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent. Mais l'action divine, elle, peut éclairer l'âme tout à fait en dehors de ces sens-là, par des connaissances infuses, qui sont imaginatives ou intellectuelles. Et ces connaissances infuses qui viennent de l'Esprit-Saint sont perçues de façon intuitive et sont plus mystérieuses et elles échappent à toute description. Or, les mystiques qui en sont favorisés peuvent quand même indiquer ce qu'ils ressentent, généralement, à l'aide d'analogies, d'images, de symboles. Et Claudine Moine est gratifiée, elle, de nombreuses vues comme ça, qui concernent la gravité du péché, le néant de l'homme par rapport à Dieu. C'est pas maladif, c'est fait dans une lumière éblouissante. Et elle voit aussi les mystères de la vie de Jésus-Christ, surtout ceux de sa vie pauvre et cachée. Mais les plus nombreuses et les plus fécondes sont relatives à l'Eucharistie. Et du reste, toutes ces lumières infuses s'avèrent efficaces. Elles opèrent dans l'âme des effets merveilleux qu'elle décrit ainsi. C'est très beau ce qu'elle écrit. Écoutez bien ça, c'est fondamentale. L'entendement étant détrompé et purgé des erreurs dont il a été rempli par les mauvaises maximes du monde, là, tout ce qu'on nous raconte, tout le monde le fait, le don, il y a toutes sortes de choses, on appelle ça les maximes du monde. Bon, je recommence. L'entendement étant détrompé et purgé des erreurs dont il a été rempli par les mauvaises maximes du monde, la volonté reçoit l'impression de la vérité. Elle l'embrasse ardemment, prenant dès lors une forte résolution de la suivre, s'exerçant dans la pratique des vertus du Sauveur et tâchant en tout, de prendre les traits de sa parfaite ressemblance. Toujours se dire, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Qu'est-ce que Jésus penserait de cela? Qu'est-ce que Jésus aurait comme sentiment? Alors, cette ressemblance que l'Esprit Saint porte ainsi à imiter le Christ habite Claudine Moine. Elle est seule dans sa petite chambre depuis près de 3 ans lorsqu'elle reçoit la rare faveur, oh, un grand mot, de la transverbération. Qu'est-ce que c'est ça? Après, d'ailleurs, elle a un jour communié avec sécheresse et aridité, puis elle revient chez elle. Quand tout à coup, elle est saisie par la présence de Jésus-Christ. Et ça, ça se fait, c'est très rare. Avec une telle force qu'elle en défaille presque. Elle a du mal à regagner sa demeure. Avec sa sobriété habituelle, elle décrit notre Seigneur qui lui lance une flèche dans le cœur, comme à Thérèse d'Avila, hein, tandis qu'elle s'adonne à la puissance souveraine de l'amour. Et à plusieurs reprises encore, elle se trouve seule. Elle n'a d'autre recours devant l'espèce d'impétuosité de la grâce que de se jeter à terre. Alors on peut dire, elle est exaltée, elle est folle. Non, 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 non. Non. Ça a été étudié par les plus grands théologiens de la vie mystique. Et on sait que Claudine Moine, c'est authentique. Elle réside déjà, d'ailleurs, chez ses bienfaiteurs quand le jour ou la veille de la Trinité, elle a 31, 32 ans à ce moment-là, elle se met à table avec le personnel, puis là, la vue du mystère que célèbre la liturgie lui est alors divinement présentée dans un endroit pareil, alors qu'elle est à table avec les autres. Cette opération, on peut dire, continue environ 2 ans au cours desquels elle rédige un écrit sur ce mystère, mais finit par le déchirer. C'est vers cette période que Claudine Moine est élevée au mariage spirituel. Qu'est-ce que c'est ça? Elle n'utilise jamais cette expression, elle parle seulement d'union et de transformation. Mais les descriptions qu'elle nous donne des effets réalisés en elle par la grâce, par l'Esprit Saint, correspondent à ce que tous les auteurs appellent l'union transformante, le mariage spirituel ou encore, oh, c'est un mot très compliqué, l'état théopathique. Bon, je dis ça pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Claudine Moine a toujours attribué cette union transformante, appelons-la comme ça, à l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui l'accomplit. Le Christ vivant ressuscité que l'on reçoit et qui nous unit au cœur brûlant du Père dans l'union de l'Esprit-Saint. Dès le début de sa vie spirituelle, comme elle hésitait à communier, aussi souvent qu'elle en éprouvait le désir, il y a une parole intérieure qui l'a encouragée en ces termes. Elle entend ça au fond d'elle-même. Et c'est très beau. Écoutez bien, c'est magnifique. C'est le centre de toute cette émission. « Va à Dieu tel que tu es, et il te fera tel qu'il veut que tu sois. » Je répète, va à Dieu tel que tu es, et il te fera tel qu'il veut que tu sois. Et pour elle, l'Eucharistie est non seulement la source de toute vie mystique, mais encore, c'est le modèle suprême de la transformation spirituelle. Avez-vous tous compris? Je répète, c'est trop important. Pour elle, l'Eucharistie est non seulement la source de toute vie mystique, mais encore le modèle suprême de la transformation spirituelle. Voulez-vous être transformé, changé, devenir heureux, heureuse, uni à Dieu dans la joie? C'est ça la vie mystique. Eh bien, c'est l'Eucharistie. C'est la source, dit-elle. Elle ose écrire, « Oh, faites en moi, mon Dieu, pour votre gloire, ce que vous faites en ce divin sacrement, pour vous communiquer à moi. Puisque vous y conservez les accidents et en détruisez la substance, Laissez-moi aussi les apparences d'une créature humaine, mais rendez-moi intérieurement toute divine. Au moment où cette prière a été transcrite, elle était déjà exaucée. Et différents symboles ont exprimé l'opération de la grâce. Elle dit, « J'ai vu deux ou trois fois cette divine volonté entrer dans le sein de mon âme, prendre, manger et dévorer la mienne, la transformant tout en soi et restant elle seule en moi pour me gouverner, diriger et conduire entièrement. Elle est totalement donnée dans l'amour. L'union qui en résulte ne peut être considérée, mais pas du tout, comme une dissolution de sa personnalité. C'est pas ça, on n'est pas dans l'hindouisme, là. Car un puissant échange d'amour s'établit alors entre Dieu et l'âme, et l'âme est toujours distincte de son créateur, même quand elle est déifiée. Je vous le rappelle, c'est pas de l'hindouisme. Ça rappelle la parole de Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, en moi, en moi. » Le « moi » est toujours là. Alors survient la grande ténèbre, et là la lumière infuse qui manifeste le mystère de la Trinité ainsi que la grandeur de Dieu provoque, par son intensité, on pourrait dire, une espèce d'effacement de toutes les créatures, et bientôt Dieu lui-même se cache comme dans un nuage qui aurait peu à peu envahi l'âme de Claudine. Et Claudine, moine, réfléchit alors sur l'évolution qui s'est produite en elle. Belle remarque, ça s'est produit en trois temps. Trois temps que nous verrons tout à l'heure rapidement pour arriver à la belle réflexion qu'elle fait sur l'Eucharistie. Claudine Moine passe donc à travers une période sombre qu'on appelle la Grande Ténèbre. Ça s'est fait en trois temps. La première, au tout début, n'est-ce pas, elle n'arrivait pas à concentrer son attention sur elle-même. Les connaissances qu'elle avait reçues de son propre néant avaient eu pour conséquence de la faire comme disparaître du champ de sa conscience. La deuxième phase, bien, c'est la clarté de Dieu, qui rejette le monde extérieur dans une sorte de pénombre. Le monde ne lui dit plus rien, Dieu seul. Et puis, Dieu lui-même se cache. Et toutes les lumières surnaturelles sont disparues, sauf à de très courts intervalles. Elle reçoit toujours la grâce de prier ardemment, mais elle ignore si ses hommages à Dieu sont agréés. C'est la période très sombre. Cette privation a été très, très difficile. Mais ça lui permet de servir Dieu plus purement. Et naît en elle une prière très fervente, qui exprime les sentiments qu'elle éprouvait alors. Elle dit, « Ô amour, tire-moi bientôt de la triste prison de mon corps. Romps mes chaînes et brise mes liens. Que je meure, mon Dieu, non seulement en vous aimant, mais que je meure à force de vous aimer. » Alors, elle désire au fond la mort, mais petit à petit, elle perd l'impression qu'elle va bientôt mourir, puis elle constate avec un certain étonnement que le désir de la mort, qui s'est resserré au fond de son cœur, n'agit plus avec la même force. Et là, elle est libre en Dieu, et son amour pour Dieu est total. Elle veut ce que Dieu veut. Elle ne veut plus mourir. Et cependant, par la suite, ce feu se ravive. Elle en est bien aise, et malgré une certaine appréhension de l'extrême souffrance qui ne manquera pas d'en résulter pour l'âme et le corps, elle continue, et pendant une année, qui coïncide plus ou moins avec 1655, Dieu la fait participer d'une autre façon au mystère de la croix. Elle a 37 ans. Et c'est la souffrance qui lui permet de produire des actes d'amour plus nombreux et plus forts. Sa journée comportait sur un fond permanent d'union à Dieu, une heure de raison le matin, l'assistance à deux messes, je vous le rappelle, et tout ça. Et moins libre de se livrer à la pénitence que lorsqu'elle vivait seule, elle ne conserve de ses mortifications que ce qui passe inaperçu, je vous l'avais dit, et petit à petit, elle s'en échappe. Mais avant de terminer cette émission assez exceptionnelle, on pourrait essayer d'expliquer tout ça un peu. Pour caractériser le témoignage de Claudine Moine, la meilleure méthode serait peut-être d'examiner les réponses qu'elle apporte aux principales contradictions apparentes de la vie spirituelle de ces gens-là, qui est celle de bien plus de monde qu'on ne pense. On ne pourra pas manquer d'être sensible à l'harmonieux équilibre de cette doctrine, car différents aspects, parfois présentés comme opposés, là, s'avèrent chez Claudine Moine simplement complémentaires. Et ce qui frappe tout d'abord, c'est la place exceptionnelle que tient l'Eucharistie. dans les relations qu'elle a écrites, sans détriment de l'oraison mentale quand même. Hein. Il y a dès qu'elle jouit de ce regard de Dieu, vous vous souvenez, hein, Claudine Moine a éprouvé pour la communion un désir qui est allé toujours croissant, au point de devenir un véritable tourment les jours où ça lui était pas permis d'approcher de la Sainte Table. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Hein. C'est au XVIIe siècle. Et assez vite, d'ailleurs, elle est admise à la communion quotidienne. Et écoutez bien, c'est fondamental. Elle considère l'Eucharistie comme le moyen essentiel de toute croissance spirituelle. Elle affirme n'avoir quasi point reçu de grâce qu'à la Sainte Communion. Ce sont ses paroles. La communion est plus efficace que toute ascèse pour calmer les passions et pratiquer la vertu. Elle est le souverain remède à tous les maux et la source qui peut nous combler de tout bien. L'âme qui se nourrit avec humilité et confiance de ce sacrement se trouve à la longue entièrement transformée. Et du reste, l'Eucharistie n'est pas seulement le moyen d'arriver à ce qu'on appelle l'union transformante que j'essayais de vous expliquer un peu. Elle en est aussi le modèle achevé, puisque, sous les apparences de l'hostie qui demeure inchangée, subsiste une réalité divine. Et d'ailleurs, sur l'Eucharistie comme moyen sacramentel pour atteindre les plus hauts états de la vie intérieure, on peut lire le travail d'un Québécois, le père Éphrem Longpré, franciscain, réputé dans toute l'Église. Éphrem Longpré, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Cet ouvrage est intitulé « Eucharistie et expérience mystique ». C'est paru à l'intérieur du Dictionnaire de spiritualité dans le tome 4. C'est très long. Les colonnes 1586 à 1621. Et en 1960, le père Éphrem Longpré, qui est mort 5 ans plus tard, a exprimé son regret de n'avoir pas connu Claudine Moine avant l'apparition de son article. Si l'Eucharistie tient d'ailleurs la première place dans le développement spirituel, l'oraison, évidemment, a son importance. Et Claudine, on s'en souvient, il consacre 1 heure chaque matin, avant de se rendre à la messe. Elle reprend souvent l'oraison le soir. Son oraison est fidèlement préparée. La veille, par une lecture, mais plus nécessaire à son avis, est la préparation lointaine, qui consiste à mener, quoi? Une vie mortifiée. Une vie recueillie. Et surtout, elle dit qu'il faut s'offrir totalement au bon plaisir de Dieu. Dieu ne cherche rien d'autre que notre bonheur. Il ne veut pas nous faire souffrir. Et si des souffrances surgissent, prenons-les comme un élément de purification. Mais il est évident que dans certains cas, les souffrances semblent si grandes que je ne comprends plus rien. Et je suis dans le noir. Et ma foi chambranle parfois dans mon cœur. C'est pas elle qui parle, c'est moi. Claudine Moine donne une description des états de raison qui constituent un nouvel exposé plus en profondeur là, de son itinéraire spirituel depuis là, les premières faveurs jusqu'à la grande ténèbre. Puis là, l'oraison infuse produit des effets multiples, dont le premier, c'est quoi? Une grande aversion du péché. Ça fait détester le péché quand on pratique l'oraison profondément. Et ensuite, il y a la défaillance de soi, la confiance en Dieu, l'humilité, la simplicité, la docilité, puis surtout la paix. Alors, elle pratique ses vertus que par le motif de l'amour, comme elle dit. C'est parce qu'elle aime Jésus-Christ. Elle veut le lui témoigner. C'est pour ça qu'elle désire lui ressembler et se rendre entièrement conforme à lui. Par exemple, en obéissant comme il a lui-même obéi à son Père. Comme son humanité s'est soumise à sa divinité. Et pour devenir conforme à Jésus-Christ, bien Claudine Moine ne compte pas tant sur une continuelle mortification que sur l'Eucharistie, je vous le rappelle, sur l'oraison puis sur l'amour, par lesquels l'âme, dit-elle, est jetée tout d'un coup dans Jésus-Christ. Et elle participe à ses sentiments. Ainsi, chaque vertu est considérée comme un effet de la grâce et mise en relation directe avec la personne de Jésus-Christ, ce qui est conforme à l'Évangile, conforme à l'Évangile. C'est pas conforme, ça, au stoïcisme qu'on nous enseigne souvent de plus en plus, ou à tout autre système de morale ordinaire, non. Ah, Claudine Moine a exprimé maintes fois un pur amour intransigeant. Puis en même temps, elle a affirmé son espérance de voir Dieu face à face au premier moment qui suivrait sa mort. C'est qu'en effet, pour elle, l'amour n'est jamais aussi pur que lorsqu'il s'identifie à ce que Dieu veut, au vouloir divin. Or, Dieu veut quoi? Se communiquer à nous tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, malades, hommes bien portants, n'importe qui. Il veut s'unir à nous. Et en définitive, Dieu veut nous rendre participants de son propre bonheur. C'est ce qu'on apprend en lisant Claudine Moine. Ô Trinité Sainte, noie-nous en toi, afin qu'en toi, ô Trinité, nous soyons vivants, vivants de ta vie, de ton amour, pour tous et même pour nous-mêmes. Amen.